une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 10, l'autre guerre civile. Cinquième partie. Des villes industrielles se développaient autour des usines du Rhode Island, du Connecticut, du New Jersey et de Pennsylvanie pour recevoir les travailleurs immigrés qui signaient des contrats les obligeant à travailler, eux et toute leur famille, pour une durée minimum d'un an. Ils vivaient dans de véritables taudis qui appartenaient à l'entreprise, étaient payés en bons d'achat dont ils ne pouvaient se servir que dans les magasins de l'entreprise et étaient brutalement licenciés lorsque leur travail était jugé insatisfaisant. À Paterson, dans le New Jersey, la première d'une série de grèves ouvrières fut lancée par des enfants. Lorsque l'entreprise décida brusquement de retarder l'heure de leur déjeuner de midi à 13h, ils quittaient leur poste sous les acclamations de leurs parents. Ils furent bientôt rejoints par d'autres travailleurs de la ville, charpentiers, maçons et mécaniciens, et la grève se transforma en lutte pour la journée de 10h. Au bout d'une semaine cependant, menacés de l'intervention de la milice, les enfants reprirent le travail et les meneurs furent licenciés. Pourtant, afin de prévenir une reprise des troubles, l'heure du déjeuner fut rétablie à midi.
Non voglio andare a scuola, perché, perché, da libri non riparo una parola, perché, la vita è tanto bella, e pum, si sa. Non tutto il mondo balla, a tutti questi cento e più perché, perché, io cerco una risposta anche per te. E urlano, grillano, corrono, mi vogliono obbediente, docile, vinto e come un burattino, mi vorrebbero guida, è vietato schiamazzar, è proibito brontolar, il bambino da obbedir, fare i compiti e studiar.
Ce sont les cordonniers de Lynn, dans le Massachusetts, ville ouvrière au nord-est de Boston, qui organisèrent la plus grande grève américaine de la période précédant la guerre de sécession. C'était à Lynn que l'on avait remplacé pour la première fois les artisans cordonniers par des machines à coudre le cuir. Après avoir commencé à s'organiser dans les années 1830, les ouvriers de Lynn avaient créé le Owl, un journal militant. En 1844, 4 ans avant la parution du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, le Hall écrivait « La division de la société en classes productives et classes non productives, ainsi que l'inégale répartition des revenus entre les deux, nous incite à établir une seconde distinction, celle entre capital et travail. Le travail devient aujourd'hui un produit comme un autre. L'antagonisme d'intérêts opposés mine la communauté. Capital et travail se retrouvent face à face. » La crise économique de 1857 porta un rude coup à l'industrie de la chaussure. Les travailleurs de Lynn perdirent leur travail. Déjà la substitution des machines aux artisans cordonniers avait provoqué la colère. Les prix avaient grimpé et les salaires étaient régulièrement revus à la baisse. À l'automne 1859, les ouvriers ne gagnaient que 3 dollars la semaine et les ouvrières à peine 1 dollar pour 16 heures de travail quotidien. La plupart des cordonniers étaient nés aux États-Unis, nous rappelle Alan Dowley dans son étude sur la grève de Lynn, Class and Community. Ils n'acceptaient pas l'ordre politico-social, si chaleureusement vanté dans les écoles, les églises et les journaux américains, qui les maintenait dans la pauvreté. À Lynn, nous dit Dowley, des cordonniers irlandais militants et alphabétisés se joignirent aux natifs américains dans un rejet déterminé du mythe de la réussite individuelle. Ensemble, travailleurs irlandais et américains votaient pour le candidat des travailleurs lors des scrutins et résistaient à la police. Tentant de comprendre les raisons qui empêchèrent ce véritable esprit de classe de déboucher sur une action révolutionnaire autonome, Dowley conclut que la politique électorale a fini par intégrer les énergies résistantes dans les canaux traditionnels du système. Contre certains historiens qui prétendent que la mobilité des travailleurs ne leur permettait pas de mener à bien une stratégie révolutionnaire, Dowlais rappelle que cette importante mobilité qui existait également à Lynn n'empêchait pas l'existence d'une vraie minorité stable jouant un rôle fondamental dans l'expression du mécontentement. Il suggère également qu'elle permettait aux individus de réaliser que les autres travailleurs étaient confrontés aux mêmes difficultés. Il estime que la lutte des travailleurs européens pour la démocratie politique, même lorsqu'ils recherchaient surtout une égalité économique, fit naître chez eux une conscience de classe. Les revendications économiques des travailleurs américains qui avaient déjà, dans les années 1830, remporté le combat de la démocratie politique, pouvaient être prises en compte par les partis politiques qui débordaient les frontières des classes. Pourtant, selon Dowlais, cet aspect de la politique américaine n'aurait pu venir à bout du militantisme ouvrier et empêcher l'éveil de la conscience de classe si toute une génération n'avait pas été lancée dans les années 60 dans la guerre de sécession. Du Nord qui se rallièrent à la cause de l'Union se firent les alliés de leur patron. Les questions nationales l'emportèrent sur les questions sociales. À une époque où l'atmosphère des communautés industrielles telles que Lynn était à la résistance à l'industrialisation, les politiciens nationaux ne se préoccupaient que des questions de guerre et de reconstruction. Sur ces questions, les partis politiques nationaux débattaient, prenaient position et offraient des solutions, en dissimulant le fait que le système politique lui-même était à l'origine des problèmes qu'il se proposait de résoudre. L'unité militaire et politique exigée par la guerre civile balaya, au nord comme au sud, la récente prise de conscience de la classe ouvrière. Ce sentiment de communauté fut abreuvé de rhétorique patriotique et imposé dans les faits par les armes. La guerre était conduite au nom de la liberté. Cependant, la répression militaire frappait aussi bien les travailleurs en grève que les Indiens du Colorado. Ceux qui osaient critiquer la politique de Lincoln étaient emprisonnés sans jugement. Il y eut sans doute quelque 30 000 prisonniers politiques pendant la guerre de sécession. Pourtant, il restait chez les deux belligérants certains signes du refus de cette unité imposée. La colère des pauvres contre les riches ou un esprit de révolte contre les forces politiques et économiques en place. Dans le Nord, la guerre entraîna la hausse des prix de la nourriture et des produits de première nécessité. Les prix du lait, des œufs et du fromage augmentèrent de 60% pour les familles qui n'avaient pu s'en procurer avant l'inflation. La guerre imposa l'embauche d'un nombre important de femmes dans les boutiques et dans les ateliers, malgré la réticence des hommes qui considéraient que cela entraînait la baisse du salaire moyen. À New York, des jeunes femmes fabriquaient des parapluies de 6 h du matin jusqu'à minuit pour 3 malheureux dollars hebdomadaires sur lesquels leurs employeurs déduisaient le coût des aiguilles. D'autres, qui confectionnaient des chemises en coton, gagnaient 24 cents pour des journées de 12 h. À la fin de 1863, les travailleuses new-yorkaises se rassemblèrent pour trouver une solution à leurs problèmes. Elles fondèrent à cette occasion le Working Women's Protective Union. Il y eut une grève des ouvrières de parapluies à New York et à Brooklyn. À Providence, dans le Rhode Island, on forma le Ladies Cigar Makers Union.
Perché, perché, perché sono modello? Perché, perché, perché sul senza cuore del cervello? Perché, sul libero io conto? Perché, perché.
Les troupes de l'Union furent employées pour briser les grèves. Des soldats fédéraux furent même dépêchés à Cold Springs dans l'État de New York pour mettre fin à la grève des salariés d'une armurerie qui exigeait une hausse de salaire. À Saint-Louis, les mécaniciens et les ouvriers de la confection en grève durent reprendre le travail sous la menace des armes. Au Tennessee, un général unioniste fit arrêter et déporter hors de l'État 200 manœuvres en grève. Lorsque les techniciens des chemins de fer de la Reading Railroad se mirent en leur tour en grève, l'armée brisa la grève comme elle le fit pour la grève des mineurs du comté de Tioga, en Pennsylvanie. Les travailleurs blancs du Nord ne montraient pas beaucoup d'enthousiasme à l'idée de se battre pour les esclaves noirs ou pour les capitalistes, ni d'ailleurs pour tout autre qu'eux-mêmes. Ils travaillaient dans des conditions proches de l'esclavage et estimaient que la guerre profitait essentiellement à une nouvelle génération de millionnaires. Ils pouvaient constater que les nombreux intermédiaires fournissaient à prix d'or des armes défectueuses, du sable pour du sucre, du seigle en place de café, des vêtements et des couvertures à base de torchons, des chaussures aux semelles de carton à l'usage des soldats du front, des navires faits de bois complètement pourris et des uniformes qui tombaient en lambeaux à la moindre pluie. Les travailleurs irlandais de New York, immigrés récents, pauvres et méprisés par les natifs américains, pouvaient difficilement éprouver de la sympathie pour la population urbaine noire dont ils subissaient la concurrence dans les emplois de débardeurs, barbiers, serveurs et domestiques. Les Noirs, expulsés de ces emplois, servirent bien souvent de briseurs de grève. Et puis, il y eut la guerre, la conscription et le risque de mourir. La conscription, votée en 1863, permettait aux riches d'échapper au service en s'acquittant de la somme de $300 ou en s'offrant un substitut. En juillet 1863, lorsque commença la conscription, un certain nombre de New-Yorkais s'en prirent au principal bureau de recrutement. Pendant 3 jours, des groupes de travailleurs blancs détruisirent dans toute la ville bâtiments, usines, tramways et domiciles. Les motivations de ces émeutes contre la conscription sont complexes. Elles sont autant anti-noirs qu'anti-riches et anti-républicains. Après une de ces attaques, les émeutiers s'en prirent aux villas des riches, mais assassinèrent également des noirs. Ils défilaient dans les rues, imposant la fermeture des ateliers et recrutant des individus qui venaient grossir leurs rangs. Ils incendièrent l'orphelinat municipal consacré aux enfants noirs et tuèrent, brûlèrent et pendirent les individus noirs qu'ils rencontraient. De nombreux autres furent noyés. Enfin, le quatrième jour, les troupes de l'Union, de retour de la bataille de Gettysburg, entraient dans la ville et mettaient fin à ces émeutes qui avaient coûté la vie à 400 personnes environ. Joel Tyler Headley, dans son livre « The Great Riots of New York », donne une image assez précise de ce qui a pu se passer au jour le jour. Deuxième jour. La sonnerie incessante des cloches d'incendie nourrissait le sentiment de terreur qui prenait de l'ampleur à mesure que les heures passaient, en particulier dans la population noire. À un certain moment, on a pu voir au coin de la 27e rue et de la 7e avenue le cadavre d'un nègre presque nu autour duquel dansait et criait un groupe d'Irlandais à la manière des sauvages indiens. On mit ensuite le feu à la boutique d'un barbier noir. Dans la même rue, un immeuble occupé par des Noirs reçut ensuite la visite de ces excités et ne fut bientôt plus qu'un amas de cendres. Newark, Troy, Boston, Toledo, Evansville connurent également des émeutes contre la conscription, mais nulle part elles ne furent aussi longues et sanguinaires que celles de New York. Dans le sud, malgré l'apparente unité des Blancs de la Confédération, il y eut également des conflits. La plupart des Blancs, les 2/3 au moins, ne possédaient pas d'esclaves. Quelques milliers de familles seulement composaient l'élite des planteurs. Le recensement fédéral de 1850 montre que, au sommet de la hiérarchie économique, 1 millier de familles du Sud possédaient quelque 50 millions de dollars de revenus annuels, tandis que les autres familles blanches, 660 000 environ, se partageaient 60 millions de dollars. Des millions de sudistes blancs n'étaient que des pauvres fermiers qui vivaient dans des bicoques ou des dépendances délabrées et cultivaient des terres si mauvaises que les propriétaires les avaient abandonnées. À Jackson, dans le Mississippi, juste avant la guerre de sécession, les esclaves de filature de coton recevaient 20 cents par jour quand les Blancs en gagnaient à peine 30. La loi de conscription de la Confédération permettait également aux riches d'éviter d'être enrôlés. Les soldats sudistes se mirent sans doute à penser qu'ils se battaient pour maintenir les privilèges d'une élite dont ils ne feraient jamais partie. En avril 1863, une émeute de pins éclata à Richmond. Au cours de l'été de la même année, plusieurs villes connurent des émeutes anticonscription. La guerre de sécession fut l'un des premiers conflits modernes du monde. Obus meurtriers, fusils mitrailleurs et charges à la baïonnette, mélange de massacres indéterminés caractéristiques de la guerre mécanisée et de combats au corps à corps. Ces scènes de cauchemar étaient difficilement descriptibles. Lors d'une offensive devant Petersburg en Virginie, un régiment comptant 850 soldats du Maine perdit 632 hommes en une demi-heure. Ce fut une boucherie. 623 000 morts des deux côtés et 471 000 blessés. Près d'un million de victimes, donc, dans un pays de 30 millions d'habitants à l'époque. On ne s'étonnera pas, dès lors, que la désertion se soit accrue dans l'armée confédérée à mesure que la guerre durait. De même, on comptait dans l'armée du Nord, à la fin de la guerre, environ 200 000 déserteurs. Pourtant, 600 000 hommes s'étaient portés volontaires dans l'armée sudiste en 1861, comme nombre de soldats nordistes. La rhétorique du patriotisme, de l'aventure et de la croisade morale utilisée par les responsables politiques avait en effet réussi à détourner le ressentiment de classe à l'égard des riches contre l'ennemi. Dans le fracas assourdissant de la guerre, le Congrès et Lincoln votèrent des lois qui donnaient au milieu d'affaires ce qu'ils désiraient, lois que le Sud agricole avait freinées avant la sécession. La plateforme républicaine de 1860 était clairement destinée à séduire les hommes d'affaires. En 61, le Congrès vota le Morrill Tarif, qui augmentait le prix des produits étrangers et autorisait les producteurs américains à augmenter leurs prix, obligeant ainsi les citoyens à dépenser plus. L'année suivante, le Homestead Act fut voté à son tour. Il offrait 64 hectares de terres publiques de l'Ouest américain à quiconque s'engageait à les cultiver pendant 5 ans. Personne souhaitant payer 1,25 $ l'acre pouvait acheter ces terres. Rares étaient néanmoins les gens ordinaires qui possédaient les 200 $ nécessaires pour ce faire. En revanche, ce fut une aubaine pour les spéculateurs. Quelques 20 000 hectares furent ainsi mis en vente contre 40 millions d'hectares octroyés par le Congrès et le président à différentes compagnies ferroviaires, sans qu'elles aient à débourser le moindre dollar. Un système bancaire national fut également mis en place, créant entre le gouvernement et les intérêts de la finance un véritable partenariat garantissant les profits de ces derniers. Devant l'ampleur des grèves, les employeurs firent appel au Congrès. La Contract Labor Law de 1864 permit aux entreprises de signer des contrats avec des travailleurs étrangers, si ceux-ci acceptaient d'abandonner 12 mois de salaire pour payer leur immigration. En conséquence, pendant la guerre de sécession, les employeurs disposaient non seulement d'une main-d'œuvre extrêmement bon marché, mais également d'un contingent de briseurs de grève. Ces immigrés irlandais, récemment débarqués, pouvaient-ils vraiment sympathiser, pauvres et méprisés comme ils l'étaient eux-mêmes, avec les esclaves noirs qui se trouvaient à l'époque de plus en plus au centre de la question politique et fournissaient le ressort de l'agitation dans le pays? Rares étaient d'ailleurs les militants de la classe ouvrière qui s'intéressaient à l'époque au sort des Noirs. Ellie Moore, syndicaliste new-yorkais élu au Congrès américain, s'élevait par exemple à la Chambre des représentants contre toute discussion sur les pétitions abolitionnistes. La haine raciale devint un substitut idéal de la frustration de classe. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.